السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے
ایک نام الواسب ہے،
اس کا مطلب ہے
جس کا رزق celui qui accorde des provisions à toute sa création, celui dont la grâce embrasse tout, celui qui est indépendant de tous. Et un autre sens de l'Ouassé signifie celui qui accorde beaucoup, celui qui est généreux, celui qui accorde plus que ce qu'on lui a demandé et celui qui multiplie ses faveurs. Et selon certains, l'Ouassé signifie celui qui embrasse tout dans sa connaissance. Ces sens sont présents dans la mention de cet attribut dans le Saint-Coran. Aujourd'hui, je vais citer certains versets du Saint-Coran où Allah a attiré l'attention des croyants concernant certains faits et où il a aussi évoqué son attribut à l'Ouassé. Dans le verset 269 de la sourate Al-Baqarah, Allah évoque le fait que Satan essaye de séduire les gens et il déclare « Ash-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil-fahsha wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un 'alim » Satan vous menace de misère et vous enjoint l'indécence, tandis qu'Allah vous promet pardon et munificence de sa part, et Allah est munificent l'omniscient. Ici, dans ce verset, Dieu évoque deux moyens par lesquels Satan essaye d'égarer les gens. Ce sont des moyens qu'il utilise pour éloigner les hommes de Dieu. Il y a tout d'abord la peur de la misère, et ensuite il enjoint l'indécence. Satan use de différents moyens pour effrayer les gens concernant la misère. Satan a déclaré que je serai à l'affût et je vais essayer d'égarer l'homme du droit chemin. Pour atteindre son objectif, il use de tout moyen. Il ne se met pas à l'affût en raison de ses capacités propres, mais il agit ainsi parce qu'Allah lui en a donné la permission. Dieu déclare « Agis comme tu le veux, mais je vais remplir l'enfer de toi et de tes suivants. » Dieu a évoqué cela clairement dans le Saint-Coran. En s'adressant aux hommes, Allah déclare que vous devez être vigilants. Si vous voulez être de mes serviteurs, alors vous devez éviter Satan. Satan va vous séduire et sa séduction va vous plaire, mais les conséquences ne seront pas bonnes pour vous. À ce propos, dans nombre d'endroits, Dieu a prévenu l'homme concernant Satan. Dieu a évoqué les pertes que l'on pourra subir. Allah déclare « Wayuridu shaytanu ayudillahum dalalam ba'ida » à savoir que Satan veut les égarer loin et les pousser vers la perdition. Il va vous faire subir des pertes en se posant en votre ami. Et ensuite, Dieu déclare « Inna shaytana lakuma adumu mubin » c'est-à-dire, certainement, Satan est votre ennemi déclaré à vous deux. Cela concerne ici Adam et Ève. Donc, cela ne s'arrête pas avec Adam et Ève. Ici, Dieu a déclaré que les hommes et les femmes doivent être vigilants, car Satan est votre ennemi déclaré. Soyez vigilants et ne vous laissez pas séduire. Et pour cela, vous devez accomplir de bonnes œuvres et accomplir vos actes d'adoration. Le Messie premier al-Islam a déclaré que les incidents et les récits qui sont rapportés dans le Saint-Coran ne sont pas que des légendes du passé qui ont été répétées pour nous, mais ce sont là des prophéties pour le futur. À savoir que cela va se passer ainsi au futur. C'est pour cette raison que si l'on se considère comme un vrai croyant, l'on doit être vigilant, car l'on peut passer par pareille situation aujourd'hui aussi. Satan, quant à lui, adapte ses moyens selon le changement de l'époque. Toute nouvelle invention et tout progrès humain apporte d'une part des avantages, mais d'autre part, Satan profite aussi de ces progrès et use de ses moyens. Allah déclare qu'il va vous faire subir des pertes. Et si vous le suivez, vous allez vous empêtrer davantage dans l'égarement. Dans ce verset de la sourate Al-Baqarah que j'ai cité, Allah déclare que Satan va vous effrayer par la misère. Al-Faqr signifie la misère, l'indigence. Et faqar signifie aussi briser l'échine ou se briser l'échine. Allah déclare que Satan vous fait peur en disant que si vous accomplissez telle action, vous ne pourrez pas vous mettre debout. Et vous allez subir des pertes. et vous serez en retard par rapport au monde. Et si vous faites des sacrifices, vous n'aurez point de statut. Satan use donc de ses moyens pour effrayer les gens afin de les empêcher de faire des sacrifices. Des fois, il va vous effrayer en disant que c'est le moment pour travailler et que ce n'est pas le moment de prier ou il ne faut pas sacrifier son temps pour prier. Des fois, il va vous empêcher de faire ces sacrifices financiers en disant que si vous faites ces sacrifices, vous allez subir des pertes. Des fois, il va déclarer que si vous dépensez cette somme aujourd'hui et maintenant, alors vos enfants n'auront rien à manger. Mais quant aux serviteurs de Dieu, ils ne sont point affectés par les menaces de Satan. Quelques jours auparavant, j'ai lu un article dans le journal Al-Fadr concernant les sacrifices financiers. Et on a évoqué un incident concernant un Ahmadi de Rabwa. Cette personne était chez le boucher pour acheter de la viande. Et tout près est passé le secrétaire des finances de la Jamaat. En voyant cette personne qui était chez le boucher, il lui a fait un rappel en disant qu'il n'a pas encore complété son paiement. Cette personne a demandé combien reste-t-il à payer. Le secrétaire mal lui a donné le chiffre et cette personne a payé cette somme immédiatement et a pris son reçu. Et cette personne a retourné la viande qu'elle avait prise du boucher en disant qu'aujourd'hui nous n'allons pas consommer de la viande. Voilà donc ces serviteurs de Dieu qui ne sont point affectés par les menaces de Satan. Satan qui leur dit qu'aujourd'hui vos enfants veulent manger de la viande et que vous êtes en train de les priver de cela. Mais par la grâce d'Allah, il n'y a pas un seul exemple de ce genre de la Jamaat Ahmadiyya. Il y a des centaines d'exemples de ces personnes qui n'abandonnent pas uniquement de la viande, mais qui s'affament même pour faire des sacrifices financiers. Ce sont des personnes qui ne reculent point devant ces sacrifices financiers. Et ensuite, il y a le sacrifice de la vie, et nous trouvons nombre d'exemples de ce genre dans la Jamaat. Aujourd'hui, au Pakistan, il y a des centaines de personnes qui décèdent quotidiennement. On ne sait pas qui va tomber sous les balles. Mais lorsque les Ahmadis font ces sacrifices, ou lorsqu'ils sacrifient leur vie, ils savent très bien que si nous habitons dans cette région, ou si nous travaillons dans tel endroit, ou si nous passons dans telle rue, il se peut à n'importe moment que nous tombions à mortir. Mais les Ahmadis ne reculent point devant ces sacrifices pour la cause de Dieu. Dans l'histoire de la Jamaat Ahmadiyya, il y a l'exemple du sacrifice de Sayyid Abdul Latif Shahid. Il y a aussi Maulvi Abdurrahman qui a sacrifié sa vie à Kaboul à l'époque même du Messie premier alayhi salam. Ces sacrifices montrent au monde que voilà les serviteurs du Rahman qui n'ont pas peur de donner leur vie pour la cause de Dieu. Et il y a plusieurs exemples de ce genre parmi les Ahmadis. Ces gens ne sont pas tombés en martyrs soudainement. Au contraire, ils ont présenté leur poitrine et ont été persévérants dans leur foi et ont présenté le cadeau de leur vie. À propos de Satan, Allah déclare qu'il va vous effrayer et qu'il va déclarer que vous serez victime de la misère. Des fois, il va dire que, suite à ces sacrifices, vos enfants seront des incapables. Lorsqu'il vous effraie à propos du sacrifice de la vie, il vous fait peur en disant quelle sera la situation de vos enfants. Aujourd'hui, l'économie est qualifiée de l'épine dorsale. Quant à ceux qui sacrifient leur vie, leur bien et leur temps, on leur fait peur en disant qu'ils vont perdre leur économie. Mais ces personnes continuent à accomplir ces actes de sacrifice. Et il y a aussi d'autres types de sacrifices, des sacrifices que l'on accomplit, des sacrifices à propos desquels Satan nous effraie. Il y a par exemple le sacrifice du temps. Tout Ahmadi sait sacrifier son temps. Tout Ahmadi qui est attaché à la Nizam et Jamaat consacre du temps à la Jamaat. Les Ahmadis sont présents tout au moins pour les rencontres, pour les ijtimas. Et la grande majorité est présente pour la prière du vendredi. Ces personnes ne se soucient guère des chuchotements de Satan. Mais il y a aussi d'autres qui ne viennent pas pour la prière de Juma ou pour les prières de l'Aïd, et ces personnes sacrifient leurs actes d'adoration pour s'occuper de leur business. Et l'on doit aussi beaucoup se soucier des prières en congrégation. Il y a bon nombre d'Ahmadis qui n'accomplissent pas leurs prières en congrégation et qui ne font pas ce sacrifice. Voilà donc quelques raisons de la négligence. Et la raison principale est que ces gens ne sont pas prêts à sacrifier leur temps pour accomplir leur salah. Allah déclare que Satan vous fait peur de différentes façons. Des fois, il vous fait peur par la misère. Des fois, il vous empêche de prier. Et d'autres fois, il vous empêche de faire d'autres sacrifices. En tant que vrai croyant, Allah déclare que vous devez être vigilant. Satan use donc de différents moyens pour égarer les gens de Dieu. Allah déclare que d'une part, il vous effraie par la misère, mais d'autre part, il vous enjoint l'indécence et vous fait gaspiller votre temps et votre argent. Les gens matérialistes perdent leur temps dans ces choses. Un non-croyant, une personne de ce bas monde, est séduit par Satan, et Satan le pousse à faire des dépenses inutiles concernant les jeux du hasard, concernant l'alcool, concernant d'autres choses. Ces personnes qui suivent Satan font ces dépenses inutiles, mais ces gens ne comprennent pas, parce que Satan a pu les séduire grâce à ses plaisirs éphémères. Et ces gens oublient qu'ils sont en train de commettre des actes infâmes et ils suivent les traces de Satan. À propos des croyants, Allah déclare « La tatabiru khutuwat ash-shaytan » c'est-à-dire ne suivez pas les traces de Satan, car il va essayer de vous égarer, de vous éloigner de Dieu. Ne croyez pas que vous aurez quelque chose de bien de Satan. Ce sera pure sottise que de penser que vous pourrez avoir quelque chose de bien de Satan. Car la tâche de Satan est de vous enjoindre l'indécence. Si nous demandons à une personne de ce bas monde que pense-t-elle de Satan? Elle va déclarer qu'Allah le protège de Satan. Mais en dépit de ce fait, ces gens qui s'éloignent de ces sacrifices et qui se rapprochent de l'indécence, ces personnes continuent à suivre Satan. Et ces personnes ne comprennent pas ce qu'elles sont en train de faire. Satan arrive donc à séduire ces gens et accomplit sa promesse, à savoir que je vais égarer la majorité des gens de Dieu. Mais Allah déclare que vous devez être vigilant quant aux ruses de Satan. Il va vous séduire par la ruse, mais venez vers Dieu, car c'est ceci le but de votre vie, et pour cela vous devez vous repentir, et Allah vous promet le pardon. Il est prêt à pardonner vos péchés du passé, et il vous donnera la possibilité d'accomplir des actes d'adoration et de bonnes œuvres, et vous pardonnera. Ici, Dieu a usé du terme « Yaridukum » et nous fait comprendre que si notre repentir est sincère, alors certainement nous aurons le pardon. Non seulement que nous aurons le pardon, mais il va aussi ouvrir les portes de ses grâces, des grâces qui dépassent l'entendement de l'homme. Dans ce verset, Allah nous a fait comprendre en premier lieu que Satan va vous effrayer par la misère, c'est-à-dire qu'il va nous faire croire que suite au sacrifice, nous allons faire face à la misère et l'on ne pourra pas se mettre debout. Satan donc déclare que suite à ces sacrifices, vous ne pourrez rien faire. Mais Allah déclare que Satan est un menteur. Et au jour de la résurrection, il va se détourner de vous. Mais Allah promet qu'il va vous pardonner. Et d'une part, ici-bas, vous allez jouir de ses faveurs, et dans l'au-delà, vous serez entouré du pardon de Dieu. Telle est sa promesse. Ensuite, Satan enjoint l'indécence, et en accomplissant ses actes d'indécence, l'on peut faire face à tout type de difficultés en ce bas monde. C'est à raison de ces actes d'indécence que certains sont victimes de maladies et l'on doit subir nombre de pertes suite à ces indécences. Ce sont des pertes que l'on subit ici-bas sur Terre. Ce sont des pertes matérielles et dans l'au-delà, ces gens seront châtiés. Mais quant aux croyants, Allah leur promet qu'il va leur accorder d'innombrables faveurs et que ces faveurs vont multiplier, que des portes de grâce de Dieu vont s'ouvrir. Et ainsi, l'on va se rapprocher de Dieu. Allah déclare que cette promesse vient de la part de celui qui est le maître des cieux et de la terre. Il est Al-Wasir, il est munificent et il possède des trésors illimités. Aujourd'hui, tout Ahmadi qui fait des sacrifices, c'est qu'en résultat de ce sacrifice, Allah lui accorde des faveurs qui dépassent même son entendement. Allah accorde d'innombrables grâces à ceux qui font ces sacrifices financiers et ces grâces dépassent leur entendement. Ces gens m'écrivent et me disent que leurs biens ont été bénis à tel point que cela dépasse leur entendement. Quant aux enfants de ceux qui ont sacrifié leur vie, Allah bénit à tel point leur vie et leur bien que cela dépasse leur entendement. Il y a nombre de familles où des membres sont tombés à mortir pour la cause de l'Ahmadiyya. Et ils sont témoins, c'est-à-dire ses descendants sont témoins que Dieu leur a accordé d'innombrables grâces en raison de ces personnes qui sont tombées en martyr. Et ces personnes sont témoins de grandes faveurs divines de Dieu qui est Al-Warsi, qui est munificent et qui est Alim et qui connaît tout. En disant qu'il est Alim, Dieu nous fait comprendre que vos sacrifices et vos actions sont connus par Dieu et que Dieu va vous accorder davantage à l'avenir, car il est Al-Warsi et ce qu'il va vous accorder va dépasser vos espoirs. Voilà le point fondamental que nous devons avoir tout le temps en tête, à savoir qu'Allah est toujours prêt à accorder davantage à ses serviteurs. Et Allah a aussi confié cette tâche aux anges, c'est-à-dire il leur demande de demander pardon pour ceux qui font des efforts pour se repentir. Allah demande aux anges d'implorer le pardon pour ceux qui croient, ceux qui font des sacrifices. À ce propos de la sourate Al-Mumin, Allah déclare « Al-lazina yahminuna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lil-lazina amanu rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilman faghfir lil-lazina tabu wa tabu sabilaka wa qihim azab al-jahim » Ceux qui portent le trône et ceux qui sont autour glorifient leur Seigneur en chantant ses louanges et croient en lui et implorent le pardon pour ceux qui croient en disant « Notre Seigneur, tu englobes toutes choses dans ta miséricorde et ta science. Alors pardonne à ceux qui se repentent et suivent ta voie et préserve-les du châtiment de l'enfer. » Ici, ceux qui portent le trône sont les anges de Dieu. De la sourate Al-Haqqa, il est dit qu'au jour de la résurrection, 8 anges vont porter le trône de Dieu. Ici, ceux qui portent ce trône sont ces anges ou ces attributs qui ont été confiés à ces anges, des attributs qui ont été évoqués dans la sourate Al-Fatiha, c'est-à-dire Rabb, Rahman, Rahim, Malik, Yawm al-Din, des attributs qui ont trait à la vie de l'homme ici-bas sur terre. Et quant à ceux qui croient et qui se repentent, quant à ceux qui se prosternent devant Dieu, quant à ceux qui accomplissent de bonnes œuvres, les anges aussi prient pour eux, surtout ces anges qui ont la responsabilité d'appliquer ces attributs divins aux hommes. Les anges qui ont pour responsabilité certains attributs de Dieu implorent Dieu par l'entremise de ces attributs et prient pour ces personnes qui croient et qui essayent d'avoir la proximité de Dieu. Ce sont des personnes qui se repentent, ce sont des personnes qui accomplissent de bonnes œuvres et qui s'évertuent à avoir la proximité de Dieu. Ce sont des personnes qui essayent de se protéger des assauts de Satan. Et dans le système de Dieu, il y a aussi des anges subalternes. Ces anges subalternes, eux aussi, implorent le pardon de Dieu pour ses serviteurs de Dieu. Donc, Dieu a fait entrer en action son système d'anges afin d'accorder davantage de grâce à ses serviteurs. Il leur dit d'implorer le pardon de Dieu pour ses serviteurs afin qu'ils puissent avoir la possibilité d'avoir son pardon et afin que leur récompense soit multipliée et afin qu'ils puissent tout le temps accomplir de bonnes œuvres. L'homme, quant à lui, il est faible et il commet des erreurs et des écarts de conduite. S'il commet une erreur, ou s'il trébuche par erreur, et s'il ne commet pas ses erreurs consciemment, alors ces anges vont implorer Dieu, Dieu dont la grâce embrasse tout et dont la connaissance embrasse tout. Ils vont demander à Dieu de pardonner à ses serviteurs afin qu'ils puissent à l'avenir aussi profiter de son pardon. Ici, Dieu a évoqué en premier lieu sa rahma et le pardon, à savoir qu'ils seront pardonnés par l'entremise de la grâce de Dieu. Ils disent que ta connaissance embrasse tout. Tu sais ce qui se trouve dans les cœurs des hommes. Et tu sais si cette personne va accomplir davantage de bonnes œuvres à l'avenir. Et il se peut que tu sais que cette personne sera un combustible de l'enfer en raison de ses actions futures. Mais étends ta grâce et fasse que ses actions soient permanentes afin qu'ils profitent davantage de ta grâce et afin qu'ils évitent le feu de l'enfer. Si tu leur accordes ta grâce, alors ils auront la possibilité d'accomplir de bonnes œuvres. Tel est notre Dieu Ar-Rahman et le très pardonnant, le très miséricordieux, celui qui est toujours prêt à accorder son pardon à son serviteur et celui qui use de tout moyen pour que ses serviteurs accomplissent de bonnes œuvres. Si son serviteur commet une erreur, il sera châtié une fois uniquement. Mais si son serviteur accomplit une bonne œuvre, sa récompense sera multipliée par 10. S'il accomplit un acte de sacrifice, il sera récompensé 700 fois. Ou sa récompense sera multipliée davantage. Dieu est Wasé. Sa récompense est illimitée. Mais l'homme, quant à lui, il est ingrat, car il abandonne Dieu qui est Rahman et qui est Rahim. Et il abandonne Dieu dont sa récompense est illimitée et il est séduit par Satan et suit aveuglement Satan. Dans la sourate Al-A'raf, on trouve mention de la prière de Moïse où il est dit « Waktub lana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirati Inna hudna ilayk. Qala azabi usibu bihi man ashaa wa rahmati wasiat kulla shay. Fasa aktubuha lillazina attaquna wa yu'tuna zakata wallazina hum bi ayatina yu'minun. Et décrète du bien pour nous ici-bas. Ici, c'est la suite du verset précédent. Il est dit donc que et décrète du bien pour nous ici-bas, ainsi que dans l'au-delà, nous nous sommes tournés vers toi avec repentir. Allah répondit, je ferai subir mon châtiment à ceux que je veux, mais ma miséricorde se répand sur toutes choses, et je la prescrirai donc à ceux qui agissent avec droiture et ceux qui paient la zakat et à ceux qui croient à nos signes. Comme je l'ai dit, le Messie premier l'Islam a déclaré que les récits des prophètes sont en fait des prophéties pour le futur. Lorsqu'on trouve mention de l'exaucement de ces prières et lorsque Dieu mentionne sa grâce, on doit comprendre que ces grâces se répandent aujourd'hui tout comme ce fut le cas dans le passé. Ces grâces vont se répandre à condition que l'homme respecte les conditions fixées par Dieu. Allah déclare que sa grâce recouvre tout, mais en même temps, il fait comprendre aux hommes leurs responsabilités. Il leur fait comprendre que ma grâce, certes, recouvre tout, mais vous avez aussi certaines responsabilités. Assumez vos responsabilités et ne suivez pas Satan. Votre responsabilité, c'est que vous devez adopter la taqwa, vous devez m'aimer moi. Et votre amour pour moi doit dépasser tout autre amour. Et vous devez aussi faire des sacrifices. Et vous devez croire en mes signes. La venue des envoyés de Dieu et des choisis de Dieu est en elle-même un signe de Dieu. Car avec la venue de ces personnes, Dieu lance toute une chaîne de signes. Et nous constatons qu'avec la venue du Messie premier, l'Islam, le Messie premier, l'Islam, qui était le véritable amoureux du saint prophète Mohammed, grâce à sa venue donc, Dieu a lancé toute une chaîne de signes. Il y avait l'éclipse du soleil et de la lune. Il y a eu aussi des séismes en sa faveur. Il y a aussi des épidémies de peste qui se sont manifestées en sa faveur. Il y a aussi les nouvelles inventions que nous voyons aujourd'hui. Ce sont autant de signes qui ont été montrés par Dieu. Ces gens acceptent qu'il y a eu dans le passé, des maladies et des séismes et des tremblements de terre. Mais il n'y avait pas autant de force dans ces calamités. Et ensuite, celui qui est venu a annoncé qu'il y aura telle ou telle calamité, que ces calamités seront en ma faveur. Allah déclare que vous devez regarder mes signes et croire en mes signes et vous ne devez pas ridiculiser mes serviteurs. Sachez que ma grâce va vous couvrir, que ma grâce sera illimitée. Certainement, ils vont en profiter. Cela concerne ceux qui accomplissent de bonnes œuvres. Allah, quant à lui, il est le maître et il peut châtier qui il veut. Et il pourra pardonner qui il veut. Mais il a aussi déclaré que sa rahma recouvre tout. C'est pour cette raison que son serviteur doit avoir l'espoir de profiter de sa grâce. Et il doit faire aussi des efforts pour suivre ses commandements. Il ne sied pas aux croyants que de négliger les préceptes de Dieu et de croire que la grâce de Dieu est incommensurable et qu'il sera certainement pardonné, quelles que soient ses actions. C'est la pure sottise et c'est mal comprendre les attributs de Dieu. Le Messie premier alayhi salam nous explique cela en disant que ce verset signifie que la rahma, que la grâce de Dieu est générale et est très étendue, mais que le courroux de Dieu signifie la justice qui entre en action. Cet attribut de justice entre en action quand on enfreint la loi de Dieu. Certes, la grâce de Dieu est immense, mais Dieu peut se courroucer et il y a aussi la justice de Dieu. Lorsqu'il décide selon sa justice, c'est là que cet attribut entre en action. Et quand l'homme transgresse la loi divine, cet attribut de justice entre en action. Telle est la nature de Dieu, telle est la loi de la nature, et c'est ainsi que Dieu châtie les coupables. C'est pour cette raison qu'il n'a pas déclaré que les coupables jouiront de sa grâce. Il a déclaré que sa grâce concerne ceux qui marchent sur les voies de la taqwa, ceux qui paient la zakat et ceux qui croient en ces signes. Il a déclaré qu'il s'est imposé de leur accorder sa grâce. Le croyant doit donc faire des efforts pour jouir de la grâce de Dieu et il doit aussi placer son espoir sur la grâce immense de Dieu. Qu'Allah nous donne la possibilité d'en profiter. Amen.